n'es pas prête, mais je veux témoigner parce que c'est trop fort. Même si ça risque de m'attirer des ennuis, il faut absolument que je témoigne. Parce que j'étais là dans le jardin l'autre jour quand ils ont arrêté Jésus. Vous ne me reconnaissez pas, je suis Malchus. Vous savez, mon maître, c'est le souverain sacrificateur, Joseph Caïphe. Tout le monde le connaît à Jérusalem. Et c'est vrai qu'en tant que serviteur du souverain sacrificateur, ben c'est pratique, je l'accompagne partout, je travaille pour lui, je suis au courant de tout ce qui se passe. Puis en plus, c'est une famille importante quand même. Son beau-père, le grand prêtre, Anne, est toujours très influent, hein, même si officiellement il n'est plus en fonction, il garde encore son titre. D'ailleurs, c'est d'abord à lui qu'on a amené Jésus l'autre fois, hein, après l'avoir arrêté. On l'a amené dans le palais d'Anne. Il l'a interrogé, puis il l'a envoyé lié à Caïphe. Mais bon, tout ça, vous le savez, c'est vrai, et il faut que je revienne au début, pour ceux, peut-être, qui ne comprendraient pas pourquoi voulait-on faire mourir Jésus. Qu'est-ce qu'il avait fait de mal ? Pourquoi vouloir tuer quelqu'un qui guérit les gens, qui chasse les démons, qui nourrit des foules ? Moi, j'avais du mal à y croire, hein, mais j'ai eu plein de témoins qui m'ont dit « Oui, avec 5 petits pains et 2 poissons, il a nourri plus de 5000 personnes. » Et en plus, il y a eu des restes. Alors forcément, vous imaginez, avec des choses pareilles, il y avait toujours plus de gens qui le suivaient, ça faisait des foules partout où il allait. Bon, il fallait gérer, hein. Et puis les gens commençaient à dire « Ah, ça nous embêtait, hein. C'est le Christ !» Puis d'autres qui disaient, bah oui, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci ? Forcément, ça. Mais ça nous embêtait déjà que tout le monde le suive comme ça, mais plus grave, c'est ce que lui disait de lui. C'était limite blasphème. Hein. Par exemple, j'ai su qu'un jour, à Nazareth, il est allé à la synagogue, puis il a lu Ésaïe 61. Bon, jusque-là, rien de mal. Il s'est levé. Il a déroulé et il a lu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et puis, Jésus a dit, eh bien aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Quoi ? Il se prenait pour qui là ? Le Messie ? Ça a tellement choqué les gens de la synagogue qui étaient là. Ben forcément, à Nazareth, tout le monde savait bien que c'était le fils de Joseph, le charpentier, de Marie, puis on connaît ses frères et sœurs. Pas exagéré quand même. Et là, il dit que... Ah non, c'est pas possible. Alors, tellement en colère, les gens de la synagogue l'ont sorti de la ville, l'ont mené jusqu'au sommet de la montagne, ils voulaient le précipiter en bas. Rien à faire, Jésus est passé au milieu d'eux. Et il est parti. Une autre fois, vous savez ce qu'il a osé dire ? J'ai existé avant qu'Abraham ne naisse. J'ai existé avant qu'Abraham ne naisse. Lui, un homme ? Se prétendre Dieu ? Il a même dit, paraît-il, qu'il était le fils de Dieu. Alors là, non, c'est pas possible. Alors plusieurs fois, on a failli le lapider. Oui, le tuer à coups de pierre, hein, pour ses blasphèmes. C'est trop grave de dire de telles choses. Nous, on sert Dieu, on ne peut pas tolérer ça. Mais bizarrement, à chaque fois, il nous a échappé, comme s'il nous glissait entre les doigts. Et on m'a rapporté qu'il aurait déclaré une phrase bizarre. « Mon heure n'est pas encore venue. » Puis en plus, il y a les pharisiens, les scribes, qui n'arrêtent pas de se plaindre. « Ouais, Jésus, il s'est permis de guérir des gens le jour du sabbat, alors que c'est interdit de travailler le jour de repos que Dieu nous a ordonné de respecter. » Oui, bien sûr. Toujours un jour de sabbat, parce qu'ils avaient faim. Ses disciples, ils ont arraché des épis, ils ont séparé les graines. Ils n'auraient pas pu le faire la veille, non ? Nous, on se débrouille bien pour tout préparer la veille. Et puis eux, non, même pas capables, ils n'auraient pas pu prévoir ça, leur repas. Ah non, ils ont fait ça le jour du sabbat. Vous pensez bien, en tant que pharisien, on ne peut pas supporter ça. Ah, et lui, il les a défendus. Ils avaient faim. Bon. Notre plainte. Jésus fréquente des gens de mauvaise vie. Mais si vous saviez, il va même chez eux. Il mange chez eux. Ah, quelle honte. Non, mais ce n'est pas possible. Un juif. Oh. Et quand on le reprend, il ne se laisse même pas faire. Impossible de le coincer sur des points de doctrine. Il retourne tout. C'est presque comme s'il n'avait pas vraiment la même loi que nous. C'est bizarre. Et puis le pire, alors là, vous savez quoi? Nous, les pharisiens, il nous a traités de sépulcre blanchi et de race de vipère. Ça ne se passe pas. Il faut que vous fassiez quelque chose, vous, les chefs des prêtres. C'est pas possible. À force d'avoir des plaintes comme ça, ça s'entasse, ça s'entasse. Et ben voilà. Alors, avec les pharisiens, les principaux sacrificateurs ont envoyé des huissiers. Vous savez, c'est nos soldats d'élite, là, un peu, qui gardent le temple. Ils ont envoyé donc ces huissiers pour arrêter Jésus, pour le saisir, nous l'amener. Parce que nous, on n'allait pas y aller. Vous comprenez, avec la foule, il faut qu'on garde notre image. Donc, c'est très délicat, parce que la foule l'aime vraiment. Et puis, en plus, il ose venir enseigner au temple. Alors, c'est vrai quand même. Il connaît les Écritures, lui qui n'a jamais étudié. Et la foule est frappée de sa doctrine, évidemment. Tout le peuple l'écoute avec admiration. Mais d'où lui viennent cette sagesse, ces miracles? Beaucoup disent, c'est un homme de bien, hein. Mais nous, qui gardons la sainte doctrine, nous pensons qu'il est dangereux, qu'il égare la multitude. La preuve, les huissiers eux-mêmes ont été retournés. On leur a demandé, mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Pourquoi vous revenez sans Jésus? On vous avait bien dit de le ramener. Non, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quoi? Est-ce que vous aussi, vous avez été séduit? Est-ce que parmi nous, parmi les chefs des prêtres et des pharisiens, est-ce qu'il y en a un qui ait cru en lui? Non. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Donc on était en train d'enguirlander les huissiers quand Nicodème, pourtant un des nôtres, est intervenu et il a dit « Est-ce que notre loi condamne un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ouh là là, ça a failli tourner à la dispute. Ses collègues lui ont sorti « Ah parce que est-ce que toi aussi, non mais ça va pas, est-ce que toi aussi tu es galiléen ?» Autrement dit, de la secte de Jésus. Examine les Écritures, enfin Nicodème, tu verras bien que de la Galilée, il ne peut rien venir de bon. De Nazareth, il ne peut pas venir quelque chose de bon. De la Galilée, il ne sort pas de prophète. Puis, plus tard, ce jour-là, j'ai entendu mon maître, Caïphe, hein, en rentrant, il parlait de Nicodème avec ses beaux-frères. Vous savez, là, dans Anne, il a 5 fils, et les 5 sont devenus grands prêtres. Moi, mon maître, il s'est marié avec la fille, donc ils sont tous superposition, et ils en parlaient ensemble et ils disaient quand même, Nicodème, il est bizarre depuis quelque temps. C'est comme s'il voulait protéger Jésus là quand même tout à l'heure. Hein. Alors ils ont même décidé, je les ai entendus, s'ils arrivent à mettre la main sur Jésus, ils feront tout pour que Nicodème ne soit pas là au moment de l'interrogatoire. Il ne faudrait pas qu'il fausse le cours de la justice, n'est-ce pas? Parce que il faut que je vous dise aussi, les chefs des prêtres, les scribes, les anciens ont déjà tenu conseil dans le palais de Caïphe. Bah oui, j'étais là. Et ils ont tramé un complot contre Jésus. Caïphe lui-même a proposé de mettre Jésus à mort. Et il a eu cette phrase étonnante. Il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Ça m'a fait réfléchir, mais je n'ai pas tout compris à ce moment-là. Et nous y voilà. Alors cette fois-ci, c'est bon. Judas Iscariote, un des 12 disciples de Jésus, est venu l'autre soir. On l'a payé et il va nous le livrer à l'insu de la foule, bien sûr. Devant la foule, on ne peut pas faire ça. On est sur les dents, tout est prêt. Cette fois-ci, Jésus ne peut pas nous échapper. On a obtenu une cohorte. Alors, vous savez, une cohorte, c'est quand même 480 soldats romains. Alors, certains ont parlé d'une foule nombreuse armée. Oui, non, mais il faut savoir quand même, ils ne réalisent pas hein, le nombre de soldats professionnels présents sur les lieux. En plus de la cohorte, on a nos soldats à nous, des juifs, les huissiers, là. envoyé par les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et enfin, ce Judas qui nous a amenés sur les lieux. Il savait que Jésus et ses disciples y étaient souvent. Donc, dans le jardin de Gethsémané, sur le mont des Oliviers. Vous imaginez un peu ? On a vu qui ? On a vu où ? Quand ? En pleine nuit, avec nos torches, nos lanternes, nos flambeaux, le cliquetis des armes, là. L'ambiance était quand même sinistre. J'aurais pas voulu être à la place de ce Jésus, là. Toute la zone était encerclée. Et on a vu quelqu'un s'avancer vers nous. Qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth. Et il a dit, c'est moi. Alors là, c'est très bizarre. C'était carrément surréaliste. On a reculé et on est tous tombés par terre. Vous imaginez un jeu de domino, tous par terre. Pour une réponse, c'est moi. J'ai rien compris. Alors tout le monde s'est relevé. On a fait mine de... Non. Oui. Et puis lui, il était à nouveau en train de demander, qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth. Et l'homme a répondu, mais je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Et il montrait ses disciples. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un en état d'arrestation donner des ordres à ceux qui viennent l'arrêter pour que ses disciples, ses complices quoi, quand même, puissent partir ? Et le pire, c'est qu'on n'a rien pu faire qu'accepter. Et les soldats ont laissé s'enfuir les disciples. Mais quand même, l'un d'eux, un vrai sauvage, a tiré son épée, il a foncé sur moi. Attention, il n'a pas foncé vers un soldat, hein. Et pas si courageux que ça finalement. Il s'est précipité sur moi, parce que j'étais aux premières loges forcément, dans un réflexe. J'ai reculé, j'ai tourné la tête et j'ai senti une douleur horrible. Il m'avait coupé l'oreille droite. C'était un sauvage et le sang coulait partout, c'était horrible. Et avec le trouet, j'ai entendu quand même que Jésus le reprenait. « Pierre, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions ?» Alors les légions, c'est encore plus immense qu'une cohorte. « Plus de 12 légions d'anges ?» Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ? Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ? De quelle coupe il me parle ? Moi, ça coule partout. Et en fait, tout en parlant, ils étaient approchés de moi, Jésus. Et voilà qu'il a posé la main sur ma blessure et j'étais instantanément guérie. La douleur terrible était partie, ça ne saignait plus. Mon oreille était là à nouveau. Et les yeux de Jésus ont rencontré les miens. Et ça, c'était un autre miracle. Quel regard d'amour ! Si profond, alors que moi, j'étais venue l'arrêter. J'étais plein de haine vis-à-vis de Jésus. Et en quelques secondes, alors que son regard rencontrait le mien, que sa main me guérissait, j'ai senti quelque chose d'incroyable, comme si la haine de mon cœur partait. Comme, vous savez, de l'eau qui s'en va, qui part, qui s'enfonce dans la terre. Plus rien. En même temps que la souffrance, plus rien. Et à la place, il y avait de l'amour. De la reconnaissance qui montait, qui m'envahissait. C'était comme s'il m'avait transformée de l'intérieur. J'étais sous le choc. Et je suis encore. Et Jésus s'était éloigné, il s'adressait à la foule. Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées, des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Et il s'est laissé emmener docilement, sans résister. Et moi, il y avait 36 idées dans ma tête. Œil pour œil, dent pour dent, oreille pour oreille. J'étais venue pour l'arrêter, dans le but de le tuer. Et lui, il m'a guéri, il m'a rendu le bien pour le mal. Alors du coup, là, j'étais plus aux premières loges. Je ne pouvais pas, j'étais trop choquée. Et j'ai suivi la foule, qui qui l'a emmené chez Anne, puis chez Caïphe. Ah non, je ne pouvais plus être devant. Là, j'étais à l'arrière. Ça voulait dire, je m'étais trompée sur toute la ligne. Qui peut faire de tels miracles? Qui peut aimer ainsi ses ennemis? Quelle est donc cette loi tellement supérieure à la nôtre? Se pourrait-il que ce soit lui, le Messie, le Fils de Dieu? Il y a donc eu les interrogatoires, puis on l'a envoyé chez Pilate. Et là, Pilate l'a fait fouetter. Je pense qu'il croyait que ça calmerait, qu'après il pourrait le renvoyer, que ce serait fini. Mais là, oh là là, à chaque coup de fouet, c'était bizarre. Vous savez ce qui m'est arrivé? C'était comme si Jésus avait guéri les oreilles de mon cœur, de mon esprit, en même temps qu'il a guéri mon oreille. Parce qu'à chaque coup de fouet, j'entendais, c'est pour toi, pour te sauver. Je paye à ta place. Je t'aime. Je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il continue à recevoir ses coups de fouet. Et Pilate, il a finalement été obligé de le faire condamner à mort à cause de la pression, du chantage politique odieux, odieux. Vous avez tous suivi tout ça. Vous avez su que la grâce qu'il méritait a été donnée à Barabbas, ce bandit meurtrier. Mais quelque part, ce qui était bizarre, c'est que j'avais l'impression que c'était Jésus qui menait là, qui menait tout. Comme quand il a dit, ne fallait-il pas que les Écritures s'accomplissent? Il ne disait rien. Il ne se défendait pas. Et tout était comme dirigé. C'est comme s'il s'était offert à la place de Barabbas, en rançon. Et je voyais, j'entendais tout ça de loin. Ouh. Et donc même son propre arrêt de mort n'a rien dit. Si étrange. Et la phrase me poursuivait. Je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était Jean-Baptiste qui avait dit ça au moment où Jésus était allé se faire baptiser. Vous vous rappelez ? C'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Mais l'agneau de Dieu à Pâques, on sait ce que c'est, un agneau parfait, sans tache. Et il a fallu qu'il se charge de sa croix et qu'il parte vers le mont Golgotha avec la foule haineuse qui le suivait. Mais moi, j'avais eu ma dose d'émotion, hein, de sang, de souffrance. Je ne supportais plus de voir Jésus comme ça. Alors, je n'ai pas voulu suivre la foule. Évidemment, je sais, il n'avait plus le choix, c'était fini. Il a été crucifié, lui. Et moi, ben, je n'avais plus où aller, je suis allée au temple. Je voulais prier, j'avais besoin de solitude, de calme, j'avais besoin de réfléchir à tout ça, loin du tumulte, loin des cris, la haine et tout ça, loin aussi des pleurs des femmes. Et j'ai su, hein, depuis, que même sur la croix, souffrant l'agonie, Jésus avait prié, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cette pensée, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Voici le Fils de Dieu, venu du Père pour accomplir sa volonté. Et les heures passaient, et brusquement, plus de soleil, pourtant on était au milieu de la journée, la nuit, d'un seul coup, et puis des bruits comme un tremblement de terre, et brusquement ce bruit, oh, incroyable, un bruit, j'ai levé les yeux, et c'était ça, quelque chose qui se déchirait, tellement épais, de haut en bas, pourtant le temple, il est immense, et ce rideau qui est en train de se déchirer de haut en bas, ça peut être que Dieu qui fasse un truc comme ça, c'est pas possible. Qui d'autre que Dieu pourrait le faire? Ça veut dire qu'il n'y a plus de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Jésus est celui qui nous réconcilie avec Dieu, qui nous permet d'entrer dans sa présence. Oh. Son sacrifice est donc parfait. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors moi, là, j'ai pris ma décision. Je ne veux plus, je ne peux plus rester serviteur du grand prêtre Caïphe. Je veux devenir serviteur du seul grand prêtre, souverain sacrificateur de cette nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Parce que son histoire ne s'est pas finie à la croix. 3 jours plus tard, il est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir, évidemment. Mais ça, d'autres vous en parleront. Moi, j'ai dit ma part. Ce que je voulais dire, je vous l'ai dit.
Merci Hélène pour cette intervention complètement imprévue pour ce qui me concerne. Donc j'ai appris ça ce matin et bon, on ne savait pas trop comment on allait organiser le message de ce matin. Du coup, j'ai senti que c'était peut-être bien de la laisser faire cette partie-là, d'autant plus que moi j'avais préparé la suite. C'est curieux parce qu'hier j'avais envie de vous transmettre ce que je faisais pratiquement tous les ans avec mes élèves de 5e, justement à propos de la résurrection de Jésus. Donc voilà, c'est la suite, c'était pas prévu. Vous voyez comme quoi Dieu fait les choses, c'est incroyable. Eh bien, les enfants posaient souvent la question, madame, c'est pas possible que Jésus soit ressuscité. La résurrection, on veut bien croire à tout ce que vous racontez, mais la résurrection, c'est pas possible. Alors j'avais pris l'habitude, je fais ça pendant 25 ans, de dire ok, qu'est-ce qui s'est passé alors si Jésus n'est pas ressuscité? Alors on va retourner là où était Hélène tout à l'heure, je crois qu'elle mériterait son film là. Eh bien on va retourner dans Jérusalem. Jésus a été effectivement enterré, enfin on ne peut pas appeler ça enterré parce que à cette époque, on déposait les corps dans une sorte de grotte, sur un banc en pierre. Et puis après, les femmes venaient embaumer le corps, ils avaient tout un tas d'herbes, etc. Pas aussi profond que ce que faisaient les Égyptiens, mais quand même, il y avait un embaumement. Et quand le corps, donc grâce à toutes ces herbes, c'était moins dangereux, il se desséchait, c'est quand même un pays chaud. Et après, on récupérait les os, on les mettait dans une boîte en pierre, en général, qui était logé dans la même grotte. Et le banc pouvait servir à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est important de savoir comment ça se passait. C'est quand même très différent de nos enterrements occidentaux. Donc Jésus est là. Les pharisiens avaient entendu parler d'une résurrection possible. Ça les faisait évidemment un peu rigoler. Mais quand même par prudence, pour pas que les disciples racontent n'importe quoi. C'est bien connu, les disciples racontaient n'importe quoi. On avait roulé une pierre très lourde et on avait installé des soldats devant. Plus tard, ils vont payer même des gens pour dire qu'il n'est pas ressuscité, que ses disciples ont volé le corps. Ce qui, à mes élèves, semblait bien possible. Alors, je disais, voilà, ok, admettons que les disciples sont venus prendre le corps de Jésus. Alors déjà, il faut savoir qu'à Jérusalem, il n'y avait pas de lampadaire. Pas de bec de gaz. C'est même pas sûr qu'il y ait eu des torches à tous les coins de rue. Donc il fallait supposer une nuit sans lune. Une nuit avec lune, je veux dire, pleine lune, pour être bien éclairée. Pas de nuages, etc. Pourquoi pas? On pourrait vérifier d'ailleurs, ça doit pouvoir se... Ensuite, si c'était une nuit de pleine lune, ça pourrait se savoir. Il se trouve que ce soir-là, tous les gens étaient en famille, c'était un soir de fête. Une fête énorme, la ville était pleine de gens. C'est la Bible qui le rapporte, mais l'histoire aussi. Si on lit les historiens, on sait que les fêtes de Pâques, c'était quelque chose de formidable à Jérusalem. Ça attirait des milliers et des milliers de gens. Et les soldats romains étaient sur les dents. Comme toute force d'occupation, la nuit, ils sont sur les dents. Et donc, il y a des patrouilles qui tournent dans la ville. Alors, pour aller chercher le corps de Jésus, eh ben, il fallait contourner les patrouilles. Très facile. Sans lampe de poche. Mais bon, admettons qu'ils ont réussi à contourner toutes les patrouilles. Qui avaient été multipliées, hein. C'est la Bible dit, et l'histoire le montre aussi, qu'on était obligé de les multiplier la nuit, parce qu'ils avaient peur à une insurrection. Et là, ils sont tous là ensemble. Vous savez, les Allemands n'étaient pas différents, hein. Mon père travaillait de nuit, pendant la guerre, et pendant l'occupation, et régulièrement, il rencontrait des patrouilles allemandes quand il rentrait à la maison à pied. Il avait à peu près 3 km à faire entre le journal Paris-Normandie et puis sa maison, parce qu'il travaillait dans un journal. Et régulièrement, il rencontrait des patrouilles. C'était leur boulot. Ils étaient, paraît-il, très corrects, d'ailleurs, une fois qu'ils avaient vu ses papiers. Mais vous voyez, dans un pays occupé, partir comme ça la nuit, sans éclairage, mais pourquoi pas? Et puis, manque de pain, devant le tombeau, il y avait des gardes. Alors, qu'est-ce que les disciples ont bien pu faire avec ces gardes? Tuer, assommer, payer, distraire. Enfin, il y avait des options, hein. Il y en a qui étaient un peu dangereuses. Mais pourquoi pas? Imaginons qu'ils ont été payés. Je ne sais pas si les disciples étaient assez riches pour le faire, mais imaginons qu'ils étaient assez riches. Moi, je veux bien. Et puis après, il fallait rouler la pierre. Ce n'était pas particulièrement silencieux, ni particulièrement facile. Il fallait au moins 2, peut-être 3. Ça ne devait pas être simple, mais pourquoi pas? Même sans lumière, on se débrouille. Et il y avait un autre problème. Après, il fallait enlever le corps. C'est quand même gênant. Il fallait au moins être 2 ou 3. C'est lourd, un corps. Et je ne pense pas que Jésus était particulièrement léger, parce qu'il était extrêmement sportif. Quand vous voyez le nombre de kilomètres qu'il a fait, tous les jours, comment il marchait, je ne pense pas que c'était un poids léger. Il devait être bien musclé. Il avait bien les pieds sur terre. Ce n'était pas un doux rêveur squelettique. Non, non. C'était vraiment un gars musclé qui faisait des kilomètres. Même mort. Donc il fallait rouler la pierre, enlever le corps, mais pourquoi pas? Il y a un détail qui est un tout petit peu gênant, c'est qu'ils ont plié le linge qui était autour de lui. Moi, je ne sais pas, mais j'aime bien, comme d'autres ici d'ailleurs, regarder les films d'Hercule Poirot, ça fait partie de mes nombreux péchés. Et ceci étant, l'acteur est chrétien, ça aide. Mais voyez-vous, en général, quand les gens commettent un délit de ce genre, ils ne prennent pas le temps de replier le linge avant de partir. Enfin bon, admettons qu'ils aient poussé le zèle jusqu'à replier le linge. Ok, malgré leur nervosité. Et puis après, il y avait un autre problème, il fallait marcher avec ce corps. Bah oui, déplacer un corps, c'est une chose, mais après, il faut marcher avec. Se déplacer, ce n'est pas évident, ce n'est pas très gracieux. Comment ils ont fait? Je ne sais pas, ils n'avaient pas de voiture, hein, pas oublié. Et puis prendre un char... ça aurait été un peu gênant, et un brancard, voilà, face à une patrouille, ça aurait pu poser des problèmes. Bon, alors on est embêté, hein. Il fallait certainement un guetteur, quelqu'un pour dire « Attention, il y a une patrouille dans la petite rue à droite, on prend celle de gauche. Non, il y en a une autre, alors on va dans l'autre sens. » Ça devait être pénible à faire, mais pourquoi pas? Bon, moi, je veux bien tout ça. Bon, il y a un autre problème, c'est qu'il fallait avoir préparé une autre tombe. Bon, alors, je ne sais pas si vous savez, d'abord, c'était un sabbat, un grand sabbat, un sabbat qui dure très longtemps. Donc, il aurait fallu qu'ils s'y prennent bien à l'avance. Et puis, vous savez, dans ces pays-là, peut-être un petit peu moins en région parisienne, mais à la campagne, et puis à cette époque aussi, les gens étaient très curieux. Ils n'avaient pas la télé, donc la télé, c'était de regarder le voisin, qu'est-ce qu'il faisait. Et donc, oh, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train de faire un trou. Ils vont enterrer un trésor. Et là, ça cause les gens, c'est normal, on ne fait pas un trou grand comme une tombe tous les jours quand même. Les gens causent, les gens observent. Ce n'était pas un désert autour de Jérusalem. Hein. Bon, ok, transporter, comment? Bah, à la main j'imagine. Et puis, imaginons qu'ils aient réussi à joindre l'endroit où ils avaient préparé la tombe, ils ont réussi à l'enterrer. Pourquoi pas? On veut bien jusque-là. Après, les choses se compliquent, mais on a aussi des arguments. Les premières qui constatent que Jésus est ressuscité, c'est des femmes. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est des histoires de bonnes femmes. Jésus ressuscité, c'est des femmes qui l'ont constaté, donc ce n'est pas crédible. C'est bon. Je me souviendrai toujours avoir fait ça avec des CM2, je crois, et j'avais le fils d'un des profs de Notre-Dame qui était là. Et puis j'avais dit, voilà, sont contentés de dire que c'est des histoires de bonnes femmes. Puis on a vu un temps de prière après. Et c'était Matthieu, hein, le petit Matthieu qui dit, on va dire merci Seigneur pour sa résurrection. Et il dit, merci Seigneur parce que tu es ressuscité et c'est pas des histoires de bonnes femmes. Ça m'avait trop plu, c'est resté dans ma mémoire. Tu t'en souviens. Voilà. Alors après, bon, il y a les disciples. Ah, ils ont vu Jésus ressuscité. Hallucination collective. Oui. Ok. Pourquoi pas, ça aurait pu arriver, hein. Moi, je veux bien aller jusque-là. Après, il y a eu Thomas. Là, Thomas, c'est embêtant. Parce que Thomas, c'était l'incrédule de service. Non, vous n'allez pas me faire avaler n'importe quoi. Il est mort, il est mort. On est tous déçus. On avait tellement cru. Tant que je ne le verrai pas. Ah, manque de chance. Jésus se présente à Thomas. Puis en plus, il le fait toucher. Là, c'est dur pour une hallucination, mais bon. L'émotion. L'émotion, un sosie et l'émotion, voilà. Bon. Mais pourquoi pas, ça aurait pu arriver, hein. Je pense qu'il y a eu des choses dans les systèmes religieux qui pourraient expliquer ça. Et puis, il y a les disciples au bord de l'eau, aussi au bord de la mer, là, quand Jésus va leur faire à manger. Hein, ça, c'est gênant quand même. Parce que là, c'est concret, hein. Faut prendre, vider les poissons, parce que je pense pas qu'ils les mangeaient comme ça. Les nettoyer, les faire griller. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais c'est du boulot, hein. Bon. Donc, c'est pour un spectre, ou une hallucination, ça devait être un tout petit peu difficile. Mais bon, pourquoi pas? Ils ont imaginé, ils avaient très faim. Vous savez, la faim, ça peut donner des... Bon, ok. Il y a un autre problème, c'est les disciples d'Emmaüs, encore d'autres. Ils étaient tristes à mourir. Ils n'ont même pas reconnu Jésus. Ils étaient tellement persuadés, de chez persuadés que Jésus était mort, que c'était la fin de tout, qu'ils étaient complètement en déconfiture. Ils n'ont même pas vu que c'était Jésus. Bon, j'imagine que Jésus est peut-être légèrement différent physiquement après sa résurrection, mais quand même. Alors pour eux, c'est quand même un problème. Alors, est-ce qu'ils ont été aveuglés par leur tristesse? Pourtant, c'est eux qui disent « Mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait ?» Jésus coupe le pain, boit le vin avec eux, et là, ah, ils comprennent. Et Jésus s'en va. Ah, la tristesse que ça peut faire. Admettons tout ça, pourquoi pas, ça pourrait. Difficilement, mais ça pourrait. Alors là, après, on a des gros problèmes. C'est l'ascension. Et il est parti pour de bon. Entre-temps, il avait apparu à 500 personnes à la fois, la Bible dit. Hein. Donc, il y avait des preuves et des preuves et des preuves sur des preuves sur des preuves. Mais bon, imaginons hallucinations collectives qui se multiplient. Après, il y a l'ascension. Il disparaît. Mais avant, il laisse un message. Et il dit de les attendre dans la chambre haute, donc pour la Pentecôte, d'attendre que le Saint-Esprit viendrait sur eux. Alors ça, c'est gênant parce qu'il l'annonce, et puis à la Pentecôte, ça se produit pour de vrai. Alors ça pourrait aussi être leur imagination qui était très forte, ils ont voulu tellement que les paroles de Jésus se réalisent. Oui. Mais le problème, c'est que les étrangers qui n'y connaissaient rien ont entendu parler dans des langues qui étaient les leurs, mais qui n'étaient pas celles des disciples. Et il parlait de quoi? Des merveilles de Dieu. Ah, ça c'est un peu coton quand même. Bon, alors tout ça, ça pourrait peut-être se contourner par toutes sortes de moyens psychologiques. Mais la même psychologie, on va l'utiliser avec Étienne, le premier martyr. Comment est-ce qu'un homme qui saurait, clair comme de lourdes roches, que Jésus a été enterré au fond d'un jardin, va se laisser lapider pour un mensonge? Étienne n'était pas le dernier des imbéciles. C'était un homme de Dieu qui avait consacré sa vie pour le service de Dieu. Et il va se laisser lapider. Imaginez s'il savait, ou s'il avait un petit doute, que Jésus, peut-être qu'il y a des disciples qui avaient été un peu tordus, là, deux ou trois, et qui seraient partis prendre le corps et l'enterrer dans un coin. Il y aurait eu des fuites. Hein. Déjà, s'il y en avait deux ou trois qui le savaient, il y aurait eu des fuites. Eh bien, lui, il se laisse mourir. C'est bizarre. Alors, peut-être que personne ne lui a rien dit. Ok. Mais là, j'ai un autre problème, c'est les 11 disciples. Moi, j'ai enlevé Judas, évidemment. Mais les 11 qui restent. Sur les 11, il y en a 10 qui vont être tués pour leur foi. Donc là, il y en a forcément un qui aurait été au courant s'il avait été enterré, Jésus. Pierre va être crucifié la tête en bas. Certains vont être décapités, etc. Pour un gars qu'on a enterré au fond d'un jardin? Alors là, non, ça ne marche plus. Même si tous les autres avaient marché, ça, je crois que ça ne marche plus. C'était des gens qui avaient les pieds sur terre, ce n'étaient pas des illuminés. On les voit d'ailleurs, c'est des gens très naturels, remplis de défauts comme nous. Les mêmes défauts, Pierre, facilement découragé, toujours à chercher, on ne pourrait pas avoir une meilleure place à côté de Jésus, etc. Enfin, des humains, quoi. Des humains avec tous leurs défauts, les pieds sur terre, des sportifs, pêcheurs de poissons. Allez voir quand vous allez au bord de la mer, allez voir, c'est pas des rigolos, hein. Si Yves Gaillard était là, je dirais. Eh bien, ce n'est pas des rêveurs. Et pourtant, ils vont presque tous, sauf Jean, être tués pour leur foi. Si vraiment Jésus avait été enterré au fond d'un jardin. Vous croyez qu'ils auraient fait ça? Ils ne sont pas tarés, ils avaient des familles. Pierre avait une femme, des enfants. Ils n'allaient pas se laisser mourir comme ça. Et puis Jean qui était si gentil, si doux, si affectueux. Ce n'était pas Pierre, hein, c'était un autre style, lui. Hein. Il était vraiment agréable. Tout le monde l'aurait voulu comme pasteur, Jean, je pense. Pierre, je suis pas sûre. Paul, encore moins. Bon. Mais Jean, il a été en exil. Sur une île, l'île de Patmos. Alors, j'ai lu un petit peu l'île de Patmos. Il paraît que c'est l'horreur. C'est un vent glacial. C'est un rocher. C'est invivable. Il a accepté ça. Vous croyez qu'il aurait accepté de finir sa vie comme ça? En plus, c'est celui qui a vécu le plus longtemps. 90 ans, je crois. 99? Waouh, bah, dis donc. Enfin, très très âgé. Et il a accepté ça. Vous croyez que vous acceptez ça pour quelqu'un qui est mort au fond d'un jardin, qu'on a enterré, qui est en train de se décomposer là? Allons, c'est pas raisonnable. Psychologiquement, c'est pas possible. Et puis le dernier, qui pour moi, ces trois-là, ce sont les preuves vraiment incontournables. C'est Paul. Celui qui avait décidé de mettre fin à cette chose, à ce christianisme qui rongeait la société israélite. C'était plus possible. Il fallait mettre fin, et le meilleur moyen, c'était de mettre tous les chrétiens en prison, leur prendre leurs enfants, en tuer un maximum, lapider, faire des exemples, parce que c'était la méthode de l'époque, hein, lapider publiquement un certain nombre, et on serait tranquille. On n'entendrait plus parler de ce christianisme. Ces mensonges, cette secte dangereuse. Et il était sincère, Paul. La Bible nous dit qu'il respirait la menace et le meurtre. T'es sympa, le gars. Heureusement qu'il a changé. Ça aurait été l'inquisition avec lui après. Son cœur a changé. Son cœur a changé. Il a rencontré Jésus. Et Jésus ressuscité. Et lui, pour ne pas dire qu'il avait été influencé par les hallucinations collectives, on ne peut pas dire que c'est son amour pour Jésus qui lui a donné cette hallucination. Hein. Il a rencontré Jésus ressuscité. Et Paul a changé complètement. Pour faire changer un bonhomme tel que Paul, pour faire changer des bonnes gens tels que nous, il fallait bien un Jésus ressuscité. On ne change pas comme ça. Et Paul, pour moi, cette vie transformée, qui a amené la transformation de millions et de millions de vies depuis des siècles, c'est la dernière que je donnerai, la dernière preuve que Jésus est vraiment ressuscité. Il ne se serait pas gâché la vie, c'était un homme riche, c'était un homme intelligent, cultivé, puissant. Vous croyez qu'il se serait pourri la vie à faire 3500 kilomètres, je crois que c'est le compte, à Notre-Dame, on faisait ça tous les ans, il me semble que c'était 3500 kilomètres pour annoncer l'évangile, être lapidé, je crois, deux ou trois fois, un naufrage, des arrestations, des emprisonnements, pour une hallucination, bonjour les dégâts. Non, c'est un homme qui a eu une vie transformée et qui a amené la transformation à des millions de vies. Et je pense qu'avec ça, on peut dire oui, Jésus ressuscité. Et je pense qu'aussi bien le récit de ce qui s'est passé avant que ce qui s'est passé après nous prouve qu'il est vivant aujourd'hui. Et si jamais vous aviez un petit doute au fond de votre cœur, parce qu'on est humain, se dire, mais c'est quand même fou de croire ça. Quelqu'un me racontait la semaine dernière qu'il témoignait à quelqu'un d'une autre religion. Et la personne dit, mais Jésus ressuscité, mais c'est pas possible ce genre de truc. Bon, c'était pas en France, mais c'est pas possible ce genre de truc. Et parfois, cette petite pensée peut nous effleurer. C'est pas possible ce genre de truc. Avec tout ce que je vous ai dit là, je pense qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. On ne peut pas avoir de doute. Il y a des tas de religions sur Terre, mais je crois quand même que c'est le christianisme qui est le seul qui prétend, il faut quand même avoir le culot de le faire, qui prétend que son Dieu est ressuscité. Il est passé par la mort, il est ressuscité. Il a pris la faute sur lui. Il est ressuscité. Je pense que là, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Parce que les meilleures preuves, après, c'est les nôtres, notre vie quotidienne. où malgré toute notre indignité, tous les défauts dont on est voilà, pourri, bon, voilà, on est humain, il nous aime, il essaie de nous aider à grandir, à faire des progrès, il guérit nos cœurs, il est venu guérir les cœurs brisés. Comment est-ce qu'il pourrait faire ça s'il était encore au fond de la tombe? Il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui. Qui est-ce qui répond à nos prières? Qui est-ce qui prend patience quand on est têtu comme des mules et qu'on ne fait pas ce qu'il demande? Moi, c'est quelque chose qui me choque chez Jésus. Cette patience qu'il a. Parce qu'il sait que nos cœurs sont abîmés et que souvent notre désobéissance vient de nos blessures. Il patiente parce qu'il nous aime. Et cet amour-là, c'est l'amour d'un Dieu ressuscité. Et ça, on le vit au quotidien, nous. Donc on ne peut pas dire, malgré toutes les belles preuves que je vous ai données, c'est peut-être la plus belle pour chacun de nous, c'est ce qu'on vit au quotidien. Il est vivant, il est ressuscité. Il écoute nos prières, il prend soin de nous, il nous aime. Tel qu'on est, vous vous rendez compte, tel qu'on est. Les autres ont du mal à nous supporter. Bon, c'est vrai, quoi, on est humain. Mais lui, non seulement il nous supporte, mais il nous soutient. Waouh, faut le faire.
J'aimerais la suite de ces deux interventions qu'on puisse baisser nos têtes. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui sont touchées ce matin parce qu'ils ont entendu et je voudrais leur laisser la possibilité de se tourner vers Dieu. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Nous avons entendu le message de Pâques, le message de la résurrection. Et Seigneur, tu as parlé ce matin. Comme il y a 2000 ans, Seigneur, tu es ressuscité et aujourd'hui tu vis et tu parles au cœur. Et Seigneur, ce matin, nous voulons nous placer devant toi. Alléluia. Si quelqu'un dans son cœur veut donner son cœur à Jésus, simplement qu'il lève sa main, je vais prier pour lui. Parce que ce matin, c'est le jour du salut. C'est le jour où tu peux rencontrer ton Dieu. Alors simplement lève la main là où tu es. Je pense aux jeunes en particulier qui n'ont peut-être pas fait ce pas. Vous savez, Satan veut voler votre âme, il veut voler votre vie. Et ne laissez pas passer une occasion. Peut-être c'est Pâques 2018 pour vous, où vous aurez rencontré Jésus. Eh bien faites-le. Je ne fais aucune pression, simplement je laisse le temps un instant pour que tu puisses prendre la décision et dire Jésus. Je veux de toi dans ma vie. Je veux que maintenant, je puisse te rencontrer comme Paul, qui ne te connaissait pas, qui t'a rencontré. Je veux te rencontrer. Simplement, si tu veux lever la main, je te laisse un instant encore. Simplement, lève ta main. C'est pas vers moi, c'est vers Dieu. Mais je prierai pour toi, pour que tu puisses rencontrer Jésus ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Si quelqu'un veut le faire, eh bien, faites-le maintenant. Amen. Amen. Et si tu n'es pas prêt, je vais prier. Seigneur, peut-être qu'il y a une hésitation. Bien, Seigneur, tu fais grâce afin que la personne que tu appelles ce matin ne passe pas à côté et ne termine pas sa vie en enfer, mais qu'elle puisse te rencontrer. Toi, la résurrection et la vie. Seigneur, quand on te rencontre, on rencontre la vie pour l'éternité. Et je te prie pour cette personne que tu as appelée ce matin, qu'elle puisse faire la paix avec toi, même si c'est chez elle. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. On va célébrer bien sûr la Pâque au travers de la scène. Et Colette m'a indiqué que cette année, c'est pas tous les ans, la fête de Pâques, donc la Pessa juive, tombe au même moment. Vous savez, la définition de la date est différente suivant les orthodoxes, les chrétiens catholiques, protestants, on suit la même règle, et puis les juifs. Voilà. Mais c'est toujours la Pâque. Alors j'aimerais juste dire un mot avant de prendre la scène pour bien parler peut-être de l'esprit de Pâques, non pas l'esprit... un esprit. Voilà, mais l'esprit de Pâques, vous savez, l'esprit, on l'utilise pour différentes choses, mais entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. La fête de Pâques est devenue, aujourd'hui, pour beaucoup de chrétiens, une fête de famille traditionnelle et commerciale, avec les petits lapins et tout, bien ancrée dans nos mentalités occidentales. Et cette fête s'est institutionnalisée, mais s'est beaucoup éloignée de la signification spirituelle que nous devrions lui accorder. Nous avons compris que Christ est notre Pâques. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Pâques ? Si je faisais une interrogation, j'aurais certainement plusieurs définitions. Toutefois, la puissance du siècle présent, donc un monde profondément païen et qui se paganise de plus en plus, et ses convoitises qui s'étalent un petit peu partout, sape constamment notre compréhension de Pâques. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il est dit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. » Ça veut dire quoi, ça ? C'est la parole de Dieu. Avec Pâques, Christ, notre Pâques, nous sommes tous les jours associés à un processus de régénération constant où interviennent une mise à mort et une résurrection de Christ. Ça, c'est la vie du chrétien. C'est ce que nous pourrions appeler l'esprit de résurrection de Pâques. La résurrection de Jésus nous donne une espérance vivante pour notre propre résurrection. C'est pour ça qu'on va prendre la scène. Elle illustre exactement ce que je viens de dire ici. Dans 1 Pierre, au chapitre 1er, verset 3, voilà ce que Pierre écrit. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Et l'apôtre Pierre, qui écrit aux Romains, chapitre 8, verset 11, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus, donc c'est l'Esprit de Dieu, d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » C'est pourquoi si nous voulons la vie éternelle, la vie immortelle, nous devons accepter Jésus dans le temps présent, pendant que nous sommes en vie ici sur la terre, pour que nous puissions participer à la résurrection. Sinon, on ne peut pas participer à la résurrection si on ne laisse passer la mort avant. Alors, un instant sur la définition du mot « Pâques ». Entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, il y a une grande différence. Les chrétiens commémorent la résurrection de Jésus-Christ, le troisième jour après sa mort, et les juifs célèbrent la sortie de l'esclavage de l'Égypte, comme vous le savez, passage de la mer Rouge, pour venir en terre de Canaan. Alors, au sein de la chrétienté, cela commence pour certains le dimanche de Pâques, mais pour les catholiques, ça marque la fin du jeûne du carême, qui dure 8 jours, selon le calendrier romain, et on parle de la semaine pascale, ou du mois pascal. Alors, c'est quoi l'origine du mot pascal ? Alors, en latin, puisque notre langue vient du latin et du grec, le latin, ça veut dire pasqua, ça veut dire nourriture. Donc, vous voyez, ça ne veut pas dire passage, ça veut dire nourriture. Et ça vient du terme pachere, c'est paître ou pacha, qui est emprunté, lui, au mot grec, qui est pasca, et qui lui-même est emprunté à l'hébreu, qui est « pécha ». Voyez-vous, parce que toutes les langues sont connectées. Le mot « pécha » veut dire « passer par-dessus », d'où le passage. Et « passer par-dessus », ce n'est pas le passage de la mer Rouge, c'est l'ange de la mort qui a été envoyé par Dieu pour châtier le pharaon, qui ne voulait pas les laisser sortir. Et c'est la 10e plaie où il a cédé, parce que la mort a touché son fils, qui devait lui succéder. Vous savez, c'est très très grave. Quand il n'y a plus de succession au pharaon, ça veut dire qu'un autre pharaon va prendre la place, et c'est la guerre civile et tout ça. Et donc, l'ange de la mort était envoyé, mais il n'a pas touché les juifs, parce qu'ils ont mis au-dessus du linteau un sang de l'agneau immolé. Et en cela, ils annonçaient la mort de Jésus, l'agneau immolé. Et l'ange de la mort, quand il a vu sur les linteaux, et ceux qui ne l'avaient pas fait, les Juifs, ben, ils étaient morts. Vous voyez, donc, l'homme a une participation au salut. Il doit, lui, prendre le pinceau et mettre sur le linteau. Et tous les Juifs qui ne l'ont pas fait, ils sont morts. Il y avait des cris, cette nuit-là. Et aussi des cris des Juifs qui ne voulaient pas obéir. Et quand on accepte Jésus, c'est ce qu'on fait. On prend le sang et on le met au-dessus du linteau. Et l'ange de la mort ne peut plus passer, ne peut plus nous atteindre. Et on peut vivre la résurrection. Donc le mot Pessa, ces passages, qui est l'origine de la fête juive qui commémore la sortie de l'Égypte, parce qu'ils ne sont pas morts, ils sont sortis vivants, et ensuite après, en plus, ils ont passé la mer Rouge. Dans les évangiles, c'est pendant cette fête juive, donc cette fête juive du passage, que Jésus, eh bien, il institue la scène que nous allons prendre tout à l'heure, et c'est le nom qui a été pris pour désigner la fête chrétienne. Dans Luc, au chapitre 20, verset 35, il est dit « Ceux qui sont trouvés dignes pour avoir part au siècle à venir. Hein, » Le siècle, ce n'est pas le 20e siècle ou le 21e siècle. Hein, le siècle, c'est une durée qui peut durer des siècles. Et nous sommes dans la durée de la rédemption, dans le siècle de la rédemption. Et ensuite, après, nos siècles dans le règne avec Jésus. Donc, je relis. Ceux qui sont trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Alors peut-être certains seront contents. Je veux dire, il n'y aura plus les conflits conjugaux. Hein, bon. Il n'y aura plus ni femme ni mari. Hein. C'est pour ça que nous, protestants, on considère que le mariage, c'est pour le temps présent. Hein, puisque après, il n'y aura plus ni femme ni mari. Il n'y aura plus de mariage tel que nous l'envisageons aujourd'hui. Car ils ne pourront plus mourir. Vous rendez compte, il faudrait avoir une femme et un mari pour l'éternité. Non, je plaisante. Non, mais il serait parfait, donc il n'y a pas de problème. Donc je réponds. Car ils ne pourront plus mourir. Parce qu'ils seront semblables aux anges. On sera semblables aux anges. Et qu'ils seront fils de Dieu. Étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand à propos du buisson, il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voyez-vous ? Il ne tient pas compte des morts, hein ? Il tient compte des vivants. Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Et dans Jean, chapitre 11, verset 24, il dit « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection et parlait de Lazare au dernier jour. » Et Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Et dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul, au chapitre 15, verset 12, dit « Or si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. C'est le deuxième Adam. Et celui qui accepte Jésus, il a la filiation du deuxième Adam. Il garde encore, pendant jusqu'à la mort, le premier Adam qui est pécheur, mais le deuxième Adam en Christ. Nous sommes une nouvelle créature. Dans Colossiens 1:18, il est dit que Christ est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier, Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. La résurrection suscite beaucoup de contestations. Vous avez entendu Michel qui a essayé de vous montrer qu'on peut beaucoup contester. Et lorsque le doute s'installe, votre espérance peut vaciller. Alors notre christianisme devient une coquille vide. C'est la raison d'espérer et de notre foi. Voilà pourquoi les apôtres témoignaient, confessaient, proclamaient avec force la résurrection de Jésus-Christ et que nous sommes aussi invités à le faire. Amen. Alors en prenant ce repas qui est une nourriture, Jésus a dit « Prenez et mangez » dans l'institution de la scène que nous lisons à chaque fois que nous prenons ce repas. Nous ne lisons pas les versets suivants et je vais les lire maintenant au verset 26. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain » Ce pain, c'est la Pâque. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le Pasqua, la nourriture. Et là, on n'est plus dans le passage de la Pâque juive, on est dans la Pasqua, dans la nourriture qui nous permet d'entrer dans la vie éternelle. Et c'est ce pain qui est la Pasqua, qui est la nourriture. Donc je relis, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il y en a qui attendent le retour de Jésus. Nous savons qu'il reviendra comme il est vu. C'est une réalité. Alors, c'est mieux que l'iPhone 8 ou que l'iPhone 10. Il y en a qui attendent l'iPhone, je ne sais pas lequel. Lequel ? Tout le monde est accroché. Matériel. Nous, nous attendons Jésus. Amen. Parce que Jésus, c'est notre vie. C'est notre vie. Dis à ton voisin, Jésus, c'est ta vie. Jésus, c'est ta vie. Et si vous refusez Jésus, vous refusez la vie. Et vous acceptez la mort. C'est pourquoi celui qui mangera le pain. Alors, je ne le dis pas souvent, mais ce repas est réservé à ceux qui ont accepté Jésus. Alors, on n'est pas dans du légalisme ou du formalisme, mais c'est important de le dire. Sinon, ça n'a aucune signification pour vous. Aucune. Parce que c'est du pain azyme, déjà, il n'est pas très bon. Hein ? Et puis, ça ne va pas vous nourrir. Hein ? Heureusement qu'il y a quelque chose qui vous attend tout à l'heure quand vous allez rentrer. Hein ? Donc ça n'a aucune signification, aucun sens, si ce n'est pas un renvoi vers une spiritualité, une réalité spirituelle. Donc c'est pour ça, celui qui mange le pain et boire la coupe du Seigneur indignement, c'est ça, manger indignement, c'est la prendre pensant que ça va faire quelque chose de magique. On n'est pas dans la magie. On n'est pas dans le truc, le machin, qui va faire quelque chose. On n'est pas dans un truc religieux qu'on joue. Ou c'est vrai, ou c'est pas vrai. Si c'est vrai, si tu as accepté Jésus, tu vas prendre ce pain et il va réellement te nourrir. Parce que tu vas le prendre et toute la semaine, tu vas en vivre. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul disait « Attendez-vous les uns les autres » Parce qu'il y en avait qui étaient des bourgeois qui vivaient de rente, donc ils n'avaient pas de problème d'horaire, donc ils venaient avant. Et ceux qui étaient ouvriers, qui devaient attendre la fin, ils venaient après. Et souvent, les premiers, ils mangeaient à part des suivants. Donc il a dit, attendez-vous. Vous voyez, c'est tout bête. Hein, voilà. Parce qu'il fallait que tous ensemble, ils prennent ce repas symbolique, qui était le symbole du corps de la Pasqua. Oui, Pasqua. La nourriture spirituelle. Celui qui le prendra indignement sera coupable envers le corps et le nom du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ses jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et l'apôtre Paul considère même qu'une correction de mort est un jugement. Peut-être qu'Ananias et Saphira sont sauvés parce qu'ils sont morts, j'en sais rien. Je ne vais pas faire ici de théologie. Mais c'est juste pour montrer que ce sont des moments importants parce que parfois on les banalise parce qu'on les prend tous les dimanches. Mais je voudrais ce matin donner une solennité à ce que nous faisons tous les dimanches, mais ce matin particulièrement, que nous le prenions avec la conscience que c'est un repas spirituel, que c'est une mémoire, nous rappelons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, et que c'est un vrai repas, c'est une vraie nourriture, une vraie Pasqua, une Pâque, qui nous nourrit, parce que Jésus a dit « mangez, mangez et buvez ». De ce sang et de ce... Parce que c'est une vraie nourriture. Et ça, bien sûr, il a choqué les Juifs. Il les a choqués de manger son corps, de manger... C'est du cannibalisme. Vous voyez, si on prend au premier degré, c'est du cannibalisme. Et si on le prend avec la compréhension spirituelle, eh bien, c'est notre vie tout entière qui est renouvelée. Amen. J'invite les personnes désignées à prier dans ce sens que nous prenions eh bien, ce repas. Où dans le chapitre 11 et verset 28...